Chapitre 10. Il fait froid, le canal est gelé. De lourds glaçons qui charrient d'étranges, d'immobiles corbeaux descendent mollement le courant, et les berges résonnent. Tout le long des berges court un bruit charmant d'harmonica. Un remorqueur et six péniches, très noirs, noirs comme s'ils conduisaient la peste et la mort, attendent le dégel, rangés au milieu de l'eau qui sera, peut-être, prise demain, car les glaçons se pressent, se rapprochent, s'entassent l'un sur l'autre avec des craquements doux. Une brume couvre les champs. Les peupliers ne sont plus qu'une vague et légère ébauche violette dans le paysage simplifié. Les mariniers, désœuvrés, vont et viennent sur le quai, emplissent le cabaret. Une odeur d'alcool est dans les regards, et le meurtre rôde. Tout à l'heure, deux hommes, la face furieuse, sont sortis et ont tiré leurs couteaux. C'est sinistre. Des canards sauvages volent par bandes symétriques, tournoient en sifflant dans le ciel bas, d'un bleu sombre au-dessus de la brume, d'un bleu qui a des reflets louches de métal. Et j'ai vu passer un cygne blanc et sanglant qui s'est abattu dans l'île, là-bas, derrière les peupliers. Ah, qu'il était blanc sur le bleu mortuaire, qu'il était rouge aussi. Pourquoi l'ont-ils tué? L'homme ne peut souffrir que quelque chose de beau et de pur, quelque chose qui a des ailes, passe au-dessus de lui. Il a la haine de ce qui vole et de ce qui chante. Il m'a semblé que ce cygne, c'était l'image même de mon rêve. Et mon rêve est mort. Autour de soi, de partout, on entend des coups de fusil. Au-dessus de soi, de partout, on entend comme des plaintes, comme des cris. Le ciel est plein d'agonie, comme la terre. Ce soir, je suis remontée de l'écluse, un peu ivre, non pas ivre tout à fait, mais j'ai dans le cerveau d'étranges pesanteurs. Au seuil du cabaret, où j'ai laissé des hommes grimaçants, un froid m'a saisi, et l'ascension de la côte ne m'a pas réchauffé. Habituellement, quand j'ai trop bu, je tombe comme une masse sur mon lit, et je dors, des sommeils heureux, des sommeils où se pavanent les plus belles chimères et les consolantes joies. Je n'ai pas sommeil ce soir. Jamais je ne me suis sentie aussi triste que ce soir. En vain, je veux ressaisir et suivre le fil de mes souvenirs. Je ne me souviens plus de rien. Tout flotte dans ma tête, comme dans de lourdes, d'impénétrables brumes. Et j'ai peur du silence qui m'entoure. J'ai peur de mon ombre, là, sur le mur. J'ai peur de ce chien qui aboie. Pourquoi n'aboie-t-il que quand je suis triste? Oh, ces nuits tranquilles, ces nuits mortes où pas un souffle ne vient heurter les branches des arbres, soulever les tuiles de mon toit, faire craquer les fenêtres, comme elles sont terribles. Fuir dans le passé, retrouver des visages, des choses. Mon père mort, ma mère morte, mes sœurs mariées. Mais je ne sais plus ce soir comment tout cela est arrivé. Voici mon compagnon, mon seul compagnon. C'est une petite araignée. Elle est descendue du plafond sur un fil que je ne vois pas et s'est arrêtée, à quelques centimètres du verre de la lampe, mais en dehors de son rayonnement. Et elle reste là, ses longues pattes pliées, au bout du fil qu'elle vient de faire. Il n'y a plus de mouches, plus d'insectes. D'ailleurs, elle demeure inactive, ne tisse aucune toile, ne se livre à aucune embuscade. Elle a l'air de dormir, le ventre à la chaleur de la lampe. Elle dort, ou elle rêve. Par un instinct de taquinerie, je déploie la lampe à droite. Alors, l'araignée remonte le long du fil invisible, prestement, comme un gymnaste, suit le plafond et redescend sur un nouveau fil, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa place à la chaleur de la lampe. Elle replie ses longues pattes grêles, se balance un instant et redevient immobile. Je renouvelle plusieurs fois l'expérience. J'éloigne la lampe, à droite, à gauche, et toujours l'araignée remonte et redescend et vient se poster, avec une admirable précision, près du verre qui lui envoie une douce chaleur. Je regarde l'araignée. Les minutes passent, les heures s'écoulent. Je regarde la petite araignée, immobile. Et il me semble qu'elle aussi me regarde avec ses 8 yeux, ironiquement fixés sur moi. Et je l'entends qui me dit « Tu es triste, tu te désoles et tu pleures. C'est ta faute. Pourquoi as-tu voulu être mouche quand il était si facile d'être comme moi, une joyeuse araignée? Vois-tu, dans la vie, il faut manger ou être mangé. Moi, j'aime mieux manger et c'est si amusant. Les mouches sont si confiantes, si bêtes. On leur dresse des petites embûches, un rien, quelques fils dans le soleil, entre deux feuilles, entre deux fleurs. Les mouches aiment le soleil, elles aiment la lumière, les fleurs. Ce sont des poètes. Elles viennent s'embarrasser les ailes dans les fils tendus près de la fleur, dans le soleil. Et tu les prends, et tu les manges. C'est très bon, les mouches. Oh, que tu es bête, va. Ta lampe s'éteint. Bonsoir. » Et l'araignée remonte au plafond et disparaît derrière une poutre dans l'ombre. Le chien aboie toujours là-bas. Un autre chien plus loin lui répond. Je me sens envahi par le froid de la mort. Je vais à la fenêtre. La lune s'est levée, a chassé les brumes. Entre les branchages dépouillés des arbres, le ciel s'allume, les étoiles flamboient cruellement. Et je pense... Et quand même j'aurais été l'araignée humaine, quand même j'aurais joui de la joie des meurtres, est-ce que j'aurais été heureux, plus heureux? Est-ce que je n'aurais pas été toujours écrasé par le mystère de ce ciel, par tout cet inconnu, par tout cet infini qui pèse sur moi? Qu'importe de vivre comme je vis, c'est vivre qui est l'unique douleur. Vivre dans la jouissance, parmi les foules, ou vivre dans la solitude, au milieu de l'effroi, du silence. N'est-ce donc pas la même chose? Et je n'ai pas le courage de me tuer. Je n'ai pas assez bu ce soir. Chapitre 11. Mes sœurs se marièrent à quelques mois de distance. Elles épousèrent des êtres très vagues, étrangement stupides, dont l'un était receveur de l'enregistrement et l'autre je ne sais plus quoi. À peine si je leur adressais la parole, et je les traitais comme des passants. Quand ils eurent compris que je ne comptais pour rien dans la famille, ils me négligèrent totalement, me méprisèrent tous les deux, pour ma faiblesse, pour mes façons solitaires, pour tout ce qui n'était pas eux, en moi. C'étaient de grands gaillards, bruyants et vantards, ayant beaucoup vécu dans la lourde, dans l'asphyxiante bêtise des petits cafés de village. Ils y avaient appris, ils en avaient gardé des gestes spéciaux et techniques. Aussi, quand ils marchaient, avançaient le bras, saluaient, mangeaient, ils avaient toujours l'air de jouer au billard, de préparer des effets rétrogrades, importants et difficiles. Et naturellement, il leur était arrivé des aventures merveilleuses, où ils s'étaient toujours conduits en héros. Dans la famille et le pays, on les trouva extrêmement distingués. « Sont-elles heureuses ? s'exclamait-on en enviant mes sœurs. Le receveur de l'enregistrement avait débuté, comme fonctionnaire, dans un petit canton des Alpes. Il y avait chassé le chamois, ce qui le rendait un personnage admirable et presque mystérieux. Lorsqu'il racontait ses prouesses dans les montagnes, au bord des précipices, où grondent les torrents tragiques, charrieurs de cadavres inconnus, et qu'il mimait avec des gestes formidables, les hautes cimes, les guides intrépides, les chamois bondissants, les coups de feu, pan, pan, et le déroulement sur les rochers neigeux, sur les rochers sanglants, de la bête frappée à mort. Ma sœur extasiée atteignait les purs, les ivres, les infinis sommets de l'amour. Elle le regardait, le contemplait, comme Elsa le surnaturel Lohengrin. L'autre n'avait pas chassé le chamois. Il avait une marotte, moins noble peut-être, mais également émerveillante et passionnante. Sa marotte était de sauter des barrières, des obstacles quelconques, et il les sautait avec une hardiesse, une souplesse qui faisait battre le cœur de mon autre sœur, comme si son fiancé eût pris une ville à l'assaut, dissipé des armées, conquis des peuples. Lorsque nous étions à la promenade, tout d'un coup, à la vue d'une barrière, d'une lève de haie, il interrompait la conversation, prenait son élan, sautait et ressautait la barrière ou la lève, et les joues plus rouges, la respiration un peu haletante, un air de triomphe dans les yeux, il revenait auprès de nous, nous regardait l'un après l'autre et disait « Faites-en autant !» Puis il s'adressait à moi « Faites-en autant, essayez !» Et c'était des rires moqueurs. Lui, mais il ne sait rien faire, lui. Alors, jusqu'au soir, c'était le récit, telle une épopée, de toutes les barrières qu'il avait franchies. Des barrières hautes comme des maisons, comme des chênes, comme des montagnes. Des barrières rouges, blanches, vertes, et des murs, et des haies. Puis il tendait le jarret, le raidissait, le faisait jouer, fier de ses muscles. Mon autre sœur défaillait d'amour, elle aussi, emportée par l'héroïsme de cet incomparable jarret, dans un rêve de joies sublimes et redoutables. Oh, qu'elle était laide et grimaçante! Et comme j'avais pitié d'elle! On les trouva une après-midi sur le banc de ma tante, ma sœur à demi pâmée dans les bras de son fiancé, qui tendait son admirable jarret, d'une façon significative et victorieuse. Il fallut avancer le mariage. Et je me souviens de scènes horribles, répugnantes, le soir, dans le salon, à la lueur de la lampe, qui éclairait d'une lueur tragique ces étranges visages, ces visages de fous, ces visages de morts. La mère du receveur de l'enregistrement vint, une fois, pour discuter des conditions du contrat et régler l'ordonnance du trousseau. Elle voulait tout avoir et ne rien donner, disputant sur chaque article âprement. Son visage se ridait de plis amers. Elle coulait sur ma sœur des regards aigus, des regards de haine, et elle répétait sans cesse « Ah, mais non, on n'avait pas dit ça. Il n'a jamais été question de ça. Un châle de l'Inde. Mais nous ne sommes pas des princes du sang, nous autres. » Mon père, qui avait cédé sur beaucoup de points, s'emporta lorsque la vieille dame eut contesté le châle de l'Inde. « Nous ne sommes pas des princes du sang, c'est possible, mais nous sommes des gens convenables, des gens honorables. Le châle de l'Inde a été promis, vous donnerez le châle de l'Inde. » Et d'une voix nette, catégorique, il ajouta « Je l'exige. J'ai pu faire des sacrifices au bonheur de ses enfants, mais ça, je l'exige. » Il se leva, se promena dans le salon, les mains croisées derrière le dos, les doigts agités par un mouvement de colère. Il y eut un moment de dramatique silence. Ma mère était très pâle, ma sœur avait les yeux gonflés, la gorge serrée. Le receveur de l'enregistrement fixait un regard embarrassé sur une chromolithographie pendue au mur. La vieille dame reprit. « Et ça vous avancera bien, tous, que cette petite ait un châle de l'Inde, si elle n'a rien à manger.
Ma fille, rien à manger ? Interrompit mon père, qui se planta tout droit et presque menaçant devant la vieille femme, dont le visage se plissa ignoblement. « Et pour qui me prenez-vous, madame ?»
Mais elle s'obstina. « Un châle de l'Inde, je vous demande un peu, mais savez-vous ce que cela coûte seulement ?»«
Je n'ai pas à le savoir. »
Ma mère, de plus en plus pâle, dit « Madame, c'est l'habitude, un trousseau est un trousseau. Nous n'avons pas demandé de dentelle, bien que, dans notre position, nous aurions pu exiger aussi un châle de dentelle. Mais le châle de l'Inde, voyons, ça ne serait pas un mariage sérieux. »
Eh bien non, si vous voulez un châle de l'Inde, vous le paierez.
Ma sœur, dont les yeux étaient pleins de larmes, sanglota, s'étouffa dans son mouchoir. Elle hoquetait douloureusement. La minute fut poignante.
« Ma fille !» s'écria mon père.
« Ma pauvre enfant !» s'écria ma mère.
« Mademoiselle, mademoiselle !»
s'écria le receveur de l'enregistrement, dont les bras allaient et venaient, comme s'ils eussent poussé une longue queue sur un énorme billard. Entre ses hoquets, ses sanglots, ma sœur suppliait d'une voix sourde, d'une voix étouffée dans le paquet humide de son mouchoir.
« Je n'en veux pas du châle, de l'Inde, je veux me marier !»
On l'entraîna dans sa chambre. Elle se laissait conduire, ainsi qu'une chose inerte, et elle ne cessait de répéter
« Je veux me marier, je veux me marier !»
Elle se maria, en effet. Sans châle de l'Inde. Puis elle partit. Mon autre sœur aussi se maria, sans châle de l'Inde. Puis elle partit. Et je n'entendis plus le glapissement de mes sœurs. Un silence envahit la maison. Mon père devint très triste. Ma mère pleura, ne sachant que faire de ses longues journées. Et les serins, dans leur cage abandonnée, périrent l'un après l'autre. Moi, je copiais des rôles chez le notaire, et je regardais d'un œil intéressé le défilé de toutes les passions, de tous les crimes, de tous les meurtres que met dans l'âme des hommes le désir de posséder un champ. Chapitre 12. Mon père et ma mère moururent, le même jour, emportés dans une épidémie de choléra. Ma douleur fut grande, et je ne saurais la décrire. Devant la soudaineté de cette catastrophe, j'oubliais tous les petits griefs que je croyais avoir contre mes parents, et je m'abandonnais, sans réserve, aux larmes. Jamais je n'aurais pensé que je puisse les aimer autant. Il y a des sentiments inconnus qui dorment dans le cœur de l'homme, comme un trésor d'avare dans la terre. Ils ne se réveillent qu'aux grands coups de pioche du malheur. Et de ces coups de pioche, ah, comme mon cœur en fut labouré. À ma douleur s'ajoutait un remords violent et combien amer, celui de ne pas avoir soigné mes parents, comme il eût fallu, peut-être. Mais représentez-vous ma situation. Effrayée par la maladie, notre bonne avait fui la maison. Dans le pays, je n'avais pu trouver une seule personne qui consentît à m'aider au chevet des malades. Et j'étais seule, tout faible, devant cette terreur. Le médecin ne faisait que paraître, disait « Ça va plus mal, ils sont perdus ». Me laissait une vague ordonnance, sans m'en expliquer l'emploi, puis il repartait, très vite, un peu pâle, vers d'autres maisons, où il répétait sans doute à de pauvres petits êtres comme moi, de sa voix féniquée, la phrase éternelle. « Ça va plus mal, ils sont perdus. » Et moi, dans la crainte de commettre quelque erreur, je m'abstenais d'administrer d'aussi évasifs médicaments dont je ne savais pas s'ils devaient être pris en breuvage ou autrement.
petit !» criait mon père en se tordant dans son lit. « Je suis glacée, réchauffe-moi, je meurs de froid !»« Petit, petit !» implorait ma mère, dont la figure terreuse se contractait dans une épouvantable expression de souffrance. « J'ai des bêtes qui me dévorent le ventre, j'ai des bêtes qui me courent dans les os !»« Oh !» faisait mon père, dont les yeux déjà se révulsaient sous la vision de la mort, dont la peau devenait sèche et noire. « Ah !» faisait ma mère. Et sous le drap, son corps ployé en deux se ratatinait. Ses genoux touchaient presque le menton. Sa bouche remontait, tordue, jusqu'aux oreilles, et ses os craquaient. J'allais de l'un à l'autre sans savoir ce que je faisais, la tête perdue, ivre de vertige. « Papa, mon pauvre papa !» « Maman, ma pauvre maman !» Écrasée par le sentiment si atroce de mon impuissance, je m'arrêtais soudain et me laissais tomber sur le tapis, entre les deux lits souillés de déjection. Je me bouchais les oreilles aux cris, aux appels, aux râles des deux chers moribonds, et je hurlais de longues plaintes, de longues et inutiles plaintes, comme un chien perdu dans la nuit. Comme un noyé qui va disparaître dans l'eau noire d'une citerne. Oh, les terribles journées! Oh, les nuits affolantes! Comment et pourquoi ai-je pu survivre à ces ébranlements, à cette épouvante? Quand mes parents furent morts, je fus saisie d'un véritable accès de folie. Je ne voulais plus voir ces faces inertes et décomposées. Je voulais fuir, loin, très loin, aux confins du monde, mettre tout l'univers entre ces cadavres et moi. Je dégringolais les escaliers et me trouvais dans le jardin, où longtemps je tournais, ainsi que fait une bête blessée à la tête. Puis je franchis la haie, traversai des champs, entrai dans la ville, et je me mis à courir par les rues, clamant « Mon père et ma mère sont morts! Mon père et ma mère sont morts !» Mais le mot de mort n'amenait plus de visages vivants, de figures inquiètes aux fenêtres des maisons et sur le pas des portes. Des morts, il y en avait dans toutes les maisons. Et les gens épargnés se sauvaient des morts, se sauvaient de ceux qui avaient vu des morts et avaient respiré des morts. Ce mot de mort volait dans le silence et ne le réveillait plus. Il se cognait aux fenêtres closes, aux seuils fermés, comme sur les planches d'une bière, la désolation d'un orphelin. Et les cercueils passaient, sans cesse, dans les rues, sans prière, devant, sans cortège, derrière. De grands feux brûlaient sur les places et dans les cours. Je rentrai enfin à la maison. Un prêtre était là, qui priait près des morts dans la chambre funèbre. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas d'où il venait. Et il me sembla que c'était Dieu lui-même qui était venu du ciel, tant sa figure était belle. En mon absence, il avait nettoyé les lits, paré les cadavres, remis de l'ordre partout. Il me dit d'une voix très douce, « Mon pauvre enfant, il ne faut pas perdre courage. Vous avez besoin de tout votre courage. Je reviendrai ce soir, puisque vous êtes si seul. » Et je passerai la nuit avec vous, près d'eux. Mais qui donc pouvait alors, le matin, se vanter de revenir le soir quelque part? J'appris le lendemain que l'admirable prêtre, le soir où il devait revenir près de moi, avait été fauché par le fléau. Oh, que Dieu existe! Que par-delà la vie mortelle fleurissent les jardins de lumière, où les justes et les bons goûtent l'éternelle paix. J'étais naturellement gauche et irrésolue. La moindre difficulté me trouvait toujours désarmée, ignorant de ce qu'il fallait faire, tremblant à l'idée de faire quelque chose. En face de cette nécessité d'agir que me commandait l'affreuse réalité, mon embarras fut extrême. Je ne pouvais me décider à prendre un parti, à accepter la plus petite responsabilité dans tout cela. Un moment, comprenant que je ne me débrouillerais pas au milieu de tous les détails des obsèques, des lettres à écrire des 1000 obligations différentes et pénibles où vous met un événement de cette nature, je songeais à me tuer. Je ne voyais pas d'autre moyen de sortir d'embarras. Et puis, qu'allais-je devenir maintenant, si seul? Comment vivrais-je dans cette ombre où la mort m'avait tout d'un coup plongé? Bien souvent, j'avais rêvé la solitude. J'avais souhaité d'être libre de moi-même. Et voilà que cette solitude et cette liberté m'effrayaient comme une prison. Je n'avais même plus la sensation du sol sous mes pieds. Un grand vide, peuplé d'étranges et cruels fantômes, m'entourait. Mieux valait mourir. Un ami de la famille voulut bien enfin me secourir. Il se substitua à moi avec un dévouement d'abord timide, puis bientôt admirable d'héroïsme. Durant ces horribles journées, les formalités étaient vite remplies. Rapidement, on enterrait les morts dans de grandes fosses, à l'avance creusées, sans attendre les délais réglementaires. Seuls, nous accompagnâmes les deux cercueils, à l'église, où de courtes prières furent dites, puis au cimetière, où il fallut attendre 2 heures la venue des fossoyeurs. Puis mes sœurs, mandées par dépêche, arrivèrent avec leur mari. La maison était vide quand elles y pénétrèrent, plus pâles de peur que d'affliction. Elles crurent pourtant, par décence, devoir gémir et pleurer. « Ah, mon pauvre père !» fit l'une. « Ah, ma pauvre mère !» fit l'autre. Mon beau-frère demanda d'un air soupçonneux « A-t-on mis les scellés partout ?» Et ce fut tout. Elles ne voulurent pas revoir la chambre funèbre et me tinrent constamment éloignée d'elles. Comment étaient-ils morts? Avaient-ils prononcé leur nom? Elles ne me demandèrent rien. Et elles s'installèrent dans le salon pour passer la nuit sur des lits improvisés.